Bonjour, vous écoutez Voix de Fait. Ici Amir Kadir, député de Québec solidaire, dont un prédécesseur, poète celui-là, a déjà dit « Pour savoir ce qu'on fera demain, il faut savoir rêver aujourd'hui. » Et à Voix de Fait, on rêve souvent.
Disait le camarade Kadir, à voix de fait, on rêve souvent, on rêve d'une gauche radicale, révolutionnaire, anticapitaliste qui sera capable de mener les combats nécessaires contre le rouleau compresseur néolibéral qui nous tombe dessus. Donc, vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Cette semaine, on va revenir sur des actions post-budgétaires qui ont eu lieu dans la très belle région de la capitale nationale. On va aussi s'intéresser aux nouvelles internationales.
Je vais vous parler de grévistes qui ont été licenciés suite à la participation à une grève au Bahreïn, aussi d'une grève et de manifestations au Yémen, puis aussi des sénateurs italiens qui veulent réhabiliter le fascisme.
Et finalement, on va commencer un dossier sur l'éducation post-secondaire qui va se poursuivre sur deux, peut-être trois émissions. Tout ça dans la prochaine heure. Vous êtes en compagnie de Nicolas.
Jenny.
Et Farouko. C'est pas pire. Mon micro marche, là?
Oui, ton micro marche.
Yes, ben on est allé sortir les boulamites digitales parce que c'est sur mon ordi que c'est ça. Fait qu'on s'en va écouter du Ludwig.
Paris brûle ses journées, bien peur de confusion et de terreur. Telles nos troncs en suspension qui sur un air de suggestion côtoie d'amour les enfants morts. D'irradiation il faut dès lors avec nos encres et nos tombes. Paris c'est moi, il pleut des bombes. Paris c'est moi, Paris c'est moi. Paris c'est moi, il pleut des bombes. Paris c'est moi, Paris c'est moi. Paris c'est moi, il pleut des bombes. Paris fleurit d'histoires débiles, de galons sur de vieux soliles qui pour un drapeau nous enterrent dans les cas sombres ou les cimetières. Le soleil brille dans mon blocos, il vient, il brille et il explose. Paris c'est moi, avions-nous tort. Paris c'est moi, Paris c'est moi. Paris c'est moi, avions-nous tort. Paris c'est moi, Paris c'est moi. Paris c'est moi, avions-nous tort. Paris meurt-il des crémations à l'heure de son extrême onction. Tandis que sous terre il murmure, jeter ses ossements sans pâture aux enfants morts pour la patrie qui sur les murs laissent de leur vie des portes noires attrait dans la nuit. Paris c'est moi, tout est fini. Paris c'est moi, Paris c'est moi. Paris c'est moi, tout est fini. Paris c'est moi, Paris c'est moi. Paris c'est moi, tout est fini.
Eh bien, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec et vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours, dans la dernière semaine? Ben, il y a eu des actions, toujours des actions en ce moment, beaucoup d'actions étudiantes, mais pas seulement. Il y a la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics de la région de Québec, Chaudière-Appalaches, qui est passée à l'action. Alors, il y a d'abord eu une action coup de poing le jeudi 31 mars. Tu allais visiter les bureaux de Michel Pigeon, l'ancien recteur de l'Université Laval, qui est maintenant député libéral de Charlebourg, histoire de lui rappeler que le budget y passe pas, et on en a ramené un petit mini-reportage.
On a de vos mesures qui nous refilent la facture.
Budget bourgeois au service du patronat.
On veut particulièrement dénoncer les mesures régressives dans le budget qui ont rapport avec l'éducation. On se rappelle que M. Pigeon a déjà été directeur de l'Université Laval. Il a été prof, il a été directeur de centre de recherche. Il devrait savoir ce que ça implique pour les étudiants et les étudiantes, le genre de budget qui a été déposé par M. Bachand ce printemps. Il sait ce que ça fait en termes d'accessibilité aux études. Il sait ce que ça fait en termes d'endettement pour les étudiants et les étudiantes. Puis on est écœurés d'avoir des budgets qui ont ce genre d'effet-là sur la population étudiante puis sur le reste de la population aussi. On ne veut plus se contenter des miettes de budget. On a une action pour rappeler au gouvernement de Jean Charest que ce n'est pas des miettes qu'il nous faut. On a besoin de services publics accessibles et de qualité. Les miettes, c'est pour des pigeons. Voilà. Fait qu'on va laisser nos miettes ici, puis on va espérer que ça aille mieux après.
Les miettes, c'est pour les pigeons, pas pour la population.
Les miettes, c'est pour les pigeons, pas pour la population.
Les miettes, c'est pour les pigeons, pas pour la population.
Les miettes, pour les pigeons, pas pour la population.
Donc, je vous inviterai à quitter en laissant encore derrière vous les miettes. Et on déclare ce bureau officiellement fermé par la population.
Fermé, bureau, fermé, bureau.
Ce qui est peut-être pas immédiatement clair en écoutant ce reportage, c'est que les militants de la coalition ont effectivement répandu beaucoup, 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 beaucoup de miettes dans le bureau de M. Michel Pigeon. En fait, c'est des croutons à l'ail, ce qui a fait dire au soleil, en fait, à Cyberpresse, manifestation aux croutons à l'ail chez Michel Pigeon. Tout le bureau est immaculé bord en bord et probablement que ça a été fermé pour le reste de la semaine.
Il n'y aura pas de vampire là.
Non, il n'y aura pas de vampire là. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de croutons à l'ail et aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de graines de tournesol qui ont été répandues un peu partout. Une action directe, non violente et dérangeante dont l'objectif était de fermer le bureau. On peut dire que c'est atteint. Donc, voilà, il y a Michel Pigeon donc, qui s'est fait visiter jeudi dernier, mais la coalition ne voulait pas en rester là. Lundi, il y a aussi Yves Bolduc qui a reçu la visite de 75 personnes. 75 militants, militantes de différentes organisations membres de la coalition. Ce qu'il faut savoir, il y a 47 groupes qui sont membres de cette patente-là à Québec. Des syndicats, des groupes populaires, des associations étudiantes, des groupes de femmes et deux collectifs politiques, à savoir le collectif anarchiste La Nuit, qui est membre sympathisant, et Québec solidaire de la capitale nationale, qui est aussi membre sympathisant. François était au rassemblement devant les bureaux d'Yves Bolduc, moi aussi d'ailleurs. Et puis, on vous a ramené ce petit reportage. Vous écoutez toujours Voix de Fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec.
Alors là, on est en face du bureau de Yves Bolduc, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Et puis là, on s'est installé un beau baril en métal. Puis là, tout le monde ensemble, une dizaine de militants ensemble, en train de déchirer allègrement des pages du budget. Et puis, ça se fait vraiment dans la bonne amie, dans la bonne humeur, le bon goût.
Bonjour, l'Institut de la finance structurée et des investissements des
banques. Alors, le concept, c'est de lire une partie du budget avant de le chier dans le feu. Le feu est en train de faire beaucoup de boucanes. Ça va sentir vraiment bon très bientôt. Donc, il y a des gens qui ont installé une bannière sur l'entrée du bureau d'Yves Bolduc. C'est marqué « Non à la taxe santé, le budget est passé, mais la lutte continue. » Coalition régionale 0312 opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Donc, c'est bel et bien une action dans le cadre de la lutte contre le budget. Alors, je suis en compagnie de Stéphane, membre du collectif Anarchiste la Nuit. Donc, pourquoi est-ce que le collectif Anarchiste la Nuit participe à cette action-là?
Bien, en fait, le collectif La Nuit est membre sympathisant de la coalition au niveau régional. Puis on participe à plusieurs niveaux, si on veut, au niveau organisationnel, là, des coups de main, tout ça. Puis je pense que c'est important que les membres du collectif s'impliquent dans les mouvements sociaux contre pour lutter contre le budget.
Les mouvements sociaux, c'est pas des gens réformistes?
Pas nécessairement, oui puis non. Mais c'est clair que pour l'instant, il faut travailler dans une perspective plus unitaire. Puis on en profite pour passer aussi les messages, discuter des enjeux plus fondamentaux, puis faire passer un point de vue sur la question, en fait, dans une perspective plus radicale, si on veut. Mais on travaille effectivement avec des gens, tant qu'ils sont contre le budget, si on veut, pour dans une perspective progressiste.
Ça serait quoi, justement, peut-être une perspective plus radicale par rapport à l'avenir du Québec, là?
Ben, c'est-à-dire que pour moi, la définition de radical, en fait, c'est vraiment d'aller à la racine des choses. C'est-à-dire que si on veut avoir une compréhension radicale des attaques qu'on subit du programme des libéraux, il faut aller aux sources, en fait. Puis les sources de ces attaques-là, en fait, c'est le système économique dans lequel on vit, le capitalisme, en fait. C'est un peu cette perspective-là qu'on essaie d'amener, c'est-à-dire développer une critique radicale du capitalisme pour comprendre réellement la source de ces attaques-là. Puis développer aussi les actions nécessaires, c'est-à-dire amener une perspective qui va aller plus loin, c'est-à-dire monter le ton et aller vers des actions qui sont plus combatives, des revendications aussi qui vont dépasser le simple retrait pour après ça offrir des alternatives qui sont concrètes, comme l'autogestion, les services publics qui sont plus démocratiques, amener une réflexion, tout ça, autant au niveau des moyens d'action que des alternatives qui sont proposées.
Là, on est devant le bureau de Yves Bolduc, ministre de la Santé. Quel genre de... Est-ce que, par exemple, ça pourrait être possible d'autogérer un hôpital, par exemple, ou un CLSC?
C'est certain que c'est une question qui est quand même assez complexe, l'autogestion. Mais je pense que oui, c'est possible. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux sont capables, ils savent, ils connaissent leur emploi. Mais c'est ça qu'il faut développer. Bon, il y a la question de fédérer, si on veut, tous les hôpitaux qui sont des questions fondamentales. Mais effectivement, je pense que c'est possible. C'est juste qu'il faut décentraliser, si on veut, le pouvoir à l'intérieur de ces institutions-là.
Parfait. Et puis, mettons que Stéphane Amin, tu fais dans la rue, puis tu croises Yves Bolduc, il tombe face à toi, qu'est-ce que tu dirais?
Ben, je pense que je dirais ma façon de penser, en fait. Je dirais que c'est un vendu au grand capital. Je veux dire qu'on sait pertinemment qu'est-ce qu'il fait en tant que ministre. Puis je pense que je rappellerais, en fait, sa mission fondamentale en tant que médecin. Je pense qu'il a un peu oublié, puis qu'il s'est tenu trop proche des pharmacies puis du pouvoir. Puis il a oublié le rôle fondamental des médecins, qui est comme d'offrir du soutien puis défendre, si on veut, les plus démunis. Puis, je resterais calme, mais je serais ferme au niveau de ce que je disais.
Ça, c'est intéressant ce que tu dis là, la mission fondamentale. C'est la même chose en éducation, tu sais. On lutte contre les missions fondamentales. On pourrait dire quasiment ça, tu sais, avec le néolibéralisme, tu sais. On lutte contre la mission fondamentale de l'éducation. On lutte contre la mission fondamentale de la santé.
Absolument, absolument. Puis, c'est important de soulever ça, la question de comment est-ce que l'école peut devenir, être un des moyens, en fait, de rendre l'égalité des chances. C'est pas totalement égal quand même. C'est quand même une institution qui reproduit les classes sociales. Puis, faut questionner l'accès à l'université puis au niveau des cégeps, mais il faut plus fondamentalement questionner tout le système d'éducation. Puis comment ça se fait que c'est la plupart du temps des gens qui sont quand même dans la classe moyenne supérieure, qui se ramassent à l'université. Il y a déjà un filtre avant l'université qui est à questionner aussi. Pas seulement la question des hausses de frais de scolarité, pas seulement l'accessibilité à l'université, mais pourquoi est-ce qu'il y a un filtre social déjà qui est lié à la pauvreté, qui est lié à plusieurs choses. Mais c'est ça, en fait, un peu amener des réflexions radicales.
On en a marre de vos mesures qui nous refilent la facture.
Je suis accompagné de Véronique de la DDS, l'Association pour la défense des droits sociaux.
On n'a jamais fait autant de richesses, mais on nous fait tout le temps de plus en plus payer. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis c'est pour ça que je suis venue. Puis c'est pour ça que la DDS est venue aussi, là. Mais en même temps, moi, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir. Ça va être qui va avoir accès à l'école? Ça va être des gens de milieux favorisés, de milieux plus riches. C'est toute la démocratie, là, qu'on attaque en même temps à travers ça. Puis pendant ce temps-là, bon, on laisse les plus pauvres, comme les personnes à cité sociale, tout le temps dans la misère. Puis c'est drôle, dans les budgets, on n'en parle pas, puis on n'a pas de solution.
Qu'est-ce qu'il y a eu dans le budget pour les gens sur l'aide sociale, les gens pauvres?
Bien, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Ça fait longtemps que le Front commun revendique les mêmes revenus pour les gens aptes et inaptes au travail. Puis on n'a même pas parlé. Il ne s'est rien fait, là.
Puisque le gouvernement a parlé à l'écouter, qu'est-ce que vous pensez qui serait l'avenue prochaine à adopter?
On doit continuer puis être de plus en plus nombreux parce que c'est pas... Il y a de plus en plus de monde touché. Ça a commencé avec les très pauvres, mais là, la classe moyenne, elle va y goûter de plus en plus. Là, elle commence à y goûter, puis... Ce que je comprends, c'est que les salaires augmentent pas aussi vite que les dépenses qu'on doit faire aussi, parce que là, l'Hydro-Québec aussi, il va avoir dans une couple d'années, là, je sais plus en quelle année, là, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais ils devaient pas augmenter de trop, puis là, ils vont pouvoir augmenter comme ils veulent. Là. Fait que ça, c'est tout le monde qui va être pris là-dedans. Là.
Aujourd'hui, on est face au bureau d'Yves Bolduc, ministre de la Santé. En quoi est-ce que, justement, les mesures du budget vont affecter, là, au point de vue de la santé, en quoi est-ce que ça va affecter les ménages à plus faible revenu?
Bien, moi, ce que je pense, c'est que de plus en plus, il va y avoir deux types de soins. Là. Les gens vont payer, puis ça commence comme ça. Là, OK, les plus pauvres n'ont pas encore à payer, mais à un moment donné, ça va-tu être de mauvaise qualité quand on paye pas, puis de meilleure qualité? Je sais que nous, nos membres, nos militants, c'est beaucoup ça qu'on parle, là, qu'à un moment donné, ça, la qualité suive le portefeuille, là, aussi. Donc, oui, on n'est pas touché, mais c'est épeurant pareil pour l'avenir, là.
Ici, Yves Bolduc se trouvait devant toi en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais? Peut-être une phrase pour finir.
Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je dirais? T'es-tu capable de bien dormir en servant juste une petite minorité? Comment tu fais pour dormir en sachant que, je vais mal parler, mais que tu fous plein de monde, la majorité de la population, mais que tu desserres une petite minorité? T'arrives à dormir? Ce serait ça ma question.
Budget bourgeois au service du patronat!
Je suis en compagnie de Charles du comité MOB, Université Laval. Pourquoi est-ce que tu es ici aujourd'hui?
Ben, on vient rejeter en masse le budget et on en profite pour le brûler littéralement du même coup. Mais on vient rejeter toutes les mesures régressives, dont spécialement là, en tant que membre du comité de mobilisation de Laval, spécialement la hausse des frais de scolarité qui a été annoncée dans le dernier budget.
Oui, puis ça brasse pas mal dans le milieu étudiant. Il y a des pas mal d'actions qui s'en viennent. À l'Université Laval, c'est quoi les prochaines choses qui s'en viennent?
Ben, à la grandeur du Québec, les actions se multiplient. À Laval, je pense que d'ici la fin de cette année scolaire, là, on va viser surtout la mobilisation des étudiants. Puis évidemment, là, pour la session prochaine, à la rentrée à l'automne, là, c'est les grèves qui arrivent, puis on doit s'attendre à ça. Hein? Ouais.
Comment tu vois ça? Est-ce que tu as bon espoir que les grèves, ça se mette en branle, puis que... qu'il y a pas mal de mobilisation. C'est quoi ton feeling par rapport à ça?
Ben c'est sûr que c'est toujours plus dur à faire lever à Québec, mais j'ai vraiment l'impression que ça bouge là, dans le mouvement. Là. Je crois que ça fait trois fois cette année qu'il y a des grèves d'au-dessus de 50 000 étudiants. Fait que j'ai confiance que ça va y aller pour la session prochaine, même à Québec. Là, il y a plusieurs départements le 6 décembre dernier qui sont tombés en grève. Je pense qu'on était rendu à 7 ou 8 départements à l'Université Laval. Fait que j'ai confiance que ça va lever. Puis on sent que le mouvement soude. Là, les actions se multiplient la dernière semaine suite à l'annonce du budget. Fait que on est confiant que ça va lever.
Bon. Charles, tu es là pour représenter le comité MOB et les étudiants, donc tout ça, l'Université Laval. Là, aujourd'hui, on est devant le bureau de Yves Bolduc. En quoi, peut-être, est-ce que les mesures en santé vont affecter peut-être les étudiants ou toi en tant que citoyen?
Ben moi, plus directement, là, compte tenu que je m'en vais, j'étudie en médecine en ce moment. Fait que pour moi, c'est important de défendre l'accessibilité à tous les services publics, notamment la santé. Puis c'est sûr que ça vient compromettre ça là, dans notre vie de citoyen plus que d'étudiant. Là, c'est tous nos services publics et leur accessibilité qui sont en jeu. Puis on fait un pas vers une société qui recherche à privatiser ces services-là.
Mais toi, tu n'es pas content, tu sais. Si on privatise, les libertins vont faire plus d'argent.
c'est pas une priorité nécessairement, là, compte tenu que je pense pas que je vais en manquer dans mon futur emploi. Là. Puis c'est ça, je pense que l'accessibilité est plus importante que le revenu privé.
T'arrêtes de me dire que tu vas être un médecin et que le salaire, ça ne sera pas si important que ça.
Je suis confiant que j'en manquerai pas. Là.
Dis-moi, là, si Ebodic serait devant toi en ce moment, qu'est-ce que tu dirais personnellement? Tu le croises dans la rue, tu tombes dessus, qu'est-ce que tu dirais?
J'aurais de la misère à rester poli, mais clairement, j'essaierais de...
T'es pas obligé d'être poli.
C'est correct. Ben, je lui enfoncerais clairement à ces mesures régressives, vous pensez.
J'aurais pas chambodé qu'on ne sera plus les têtes de turc.
Je me ramène dans le temps pour quelques instants. Vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer? Pour vous dire comment c'est. D'abord, faut nuancer. L'histoire est romancée. Manipulée, elle est écrite par les maquillages. De toute partie dissimulée, les hypocrites d'être podrières. Back in the day, sur de 1604. Champlain débarque avec un support en plaque. Mathieu Lacosta dit l'interprète. Il parle Micmac, français, hollandais. En 1629, arrive Olivier le Jeune, premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec. Au moins 10 000 esclaves au Canada. Jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Et c'est fou, à force de fureté en match, découvert que Lionel Groulx prenait la pureté des races. C'est la même pour Garneau, FX Garneau. Québec History X nous ont fait du tableau. Mais pourtant, il y avait des hommes d'affaires noires. On était dans les régiments, d'autres étaient courants des voiles. Mais aussi des aubergistes. Et ils veulent nous faire croire que les noirs sont ici depuis les années 70. 1779, point du sort Jean-Baptiste. Médecin d'hier, fondé un poste de traite en Illinois. Nowadays, on l'a
appelle Chicago, black francophone à fond des Chicago. Jackie Robinson, Oliver Jones et Oscar Peterson. La liste est longue, mais pas tant que ça. Trop de oubliés qui ont contribué à ne passer, mais peu veulent le souligner. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire et nous y souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. 6 minutes, l'ignorance diminue. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire et nous y souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. 6 minutes, l'ignorance diminue. Au 19e siècle, c'est pas du tout fini. Ils envoyaient les Chinois faire les chemins de fer dans tout le pays. Détonateurs vivants les envoyaient creuser la roche. Avec l'année trouble les sirènes, ça sautait à leur approche. Le pain des Chinois, ça vient de là. Bœuf, maïs et patates, tout ce qu'on trouve dans le West Side. Toi pis moi, ça a rien d'oriental. C'est une mixture qu'on leur donnait pour les nourrir en table. Maintenant les Indians, ah, les Indians, hein, ils l'ont eu bad. Les Indians viennent de ça à grande échelle, à trop grande échelle. La mémoire des Amériques est à jamais entachée. Les premières armes bactériologiques, on leur donnait des couvertures et bébés de variole. Tu vois la suite, choc microbiologique et viol culturel. Être vu en étranché sur sa propre parcelle. Tout terre ancestrale, c'est l'ère industrielle. Fait qu'encore 21e siècle, l'homme des ancêtres. On parle de col, de viol et d'alcool dans les fioles. Le haut tout tu sais, démonte fucking ras-le-bol. Dans les réserves, je comprends qu'il y en a qui s'attaquaient au gouvernement, comme dans le temps qu'elle est s'attaquer. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire et nous y souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. 6 minutes, l'ignorance diminue. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire et nous y souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir quand on y pense. 6 minutes, l'ignorance diminue.
I'm not controversial, I'm just speaking the facts. Gotta speak with your weak mind. I'm not controversial, I'm just speaking the facts.
Oui, on vient d'entendre Québec History X sur son dernier album de Webster. Le nom de cet album, Monsieur Phébus?
Le Vieux de la Montagne.
Ah, c'était fait chuter. Morceau de rebois, la madame.
Là, on s'en va à une nouvelle internationale. Première nouvelle, c'est ces 200 salariés grévistes qui ont été licenciés au Yémen après avoir participé à des après qu'ils aient participé à une grève générale le 13 mars dernier. Là, j'avais demandé à Phébus de me faire imprimer les articles, mais heureusement, les articles ont sorti en partie. Donc, je n'ai pas toutes les informations.
Ah, oh, merde. Désolé.
Vive les imprimantes.
Flûte 18.
Puis là, il y a une citation qui est marquée dans l'article de Radio-Canada. Il est illégal à Bahreïn et dans n'importe quel pays, autre pays du monde de faire sa grève avant d'aviser l'employeur 2 semaines avant. En tout cas, c'est un représentant qui a préféré rester anonyme, mais je ne sais pas de qui, en fait. En fait, ce minuscule voyant pétrolier est frappé depuis février par mouvement de contestation dans le fond dans le climat actuel dans le pays arabe. Au début, les manifestants réclamaient de profondes réformes politiques et sociales. Puis l'opposition s'est radicalisée, réclame de se rattacher sur une véritable dans le fond, d'avoir plus de démocratie dans le fond. Puis c'est la majorité chiite du pays qui représente 70% de la population qui est victime de discrimination. Ça va être à suivre. Aussi, au Yémen, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue mercredi à... j'ai pas le nom de la ville, ça doit être la capitale du Yémen, je suppose, pour demander le départ du président Ali Abdullah Saleh, qui est au pouvoir depuis 32 ans. Les commerces et les banques étaient fermés dans le cadre du grève général. Puis c'est considéré comme... C'est dans la deuxième ville du pays, puis c'est considéré comme étant la plus grande et importante manifestation à ce jour. Il y a plus de 120 personnes qui ont été tuées au Yémen depuis le début de ce mouvement de contestation en février. À Taïz, la répression des manifestations a fait 16 morts lundi. Le président yéménite s'est dit prêt à démissionner à la fin de l'année si on proposait un délai acceptable, mais l'opposition le soupçonne de chercher simplement à gagner du temps. Dans le fond, ça se poursuit encore les manifestations et les grèves dans ce coin-là du pays, dans ce coin-là du monde, donc il va falloir rester attentif. Il y a aussi là, des sénateurs italiens qui veulent réhabiliter le fascisme. C'est plusieurs sénateurs de la droite italienne qui ont déposé un projet de loi prévoyant la suppression de l'interdiction faite par la Constitution du pays de réorganiser sous quelque forme que ce soit le parti fasciste, indiqué hier à l'agence ANSA, c'est un article du Journal de Québec. C'est un journal que j'ai vu qui en parlait, c'est quand même curieux. C'est les sénateurs du Peuple de la Liberté, les partis de Silvio Berlusconi. Berlusconi qui est justement sur la touche en ce moment parce qu'il y a de la... Robigay, qu'est-ce que ça s'appelle? Parce qu'il recouchait avec des mineurs, puis là, essaie de faire son procès, mais qu'elle a réussi à faire en sorte que son procès ne soit pas humiliant parce qu'il aurait peur que ce soit comme un peu partial comme procès.
Ben, plutôt que ce soit trop impartial à son goût.
Oui. Que ces sénateurs-là ont déposé fin mars le projet de loi constitutionnelle qui fera l'abolition de l'article 7. Des normes transitoires de la Constitution italienne stipulant la réorganisation du parti fasciste dissous est interdite sous quelque forme que ce soit. C'est la présidente des sénateurs du Parti démocrate, Anna Finocchiaro, qui a affirmé que je trouve ça grave et offensant pour l'histoire du pays, de la République et pour la démocratie que le PDL veuille abolir à travers un projet de loi le délit d'apologie du fascisme prévu par le Code pénal en vertu de l'incertitude de la Constitution. Elle est présidente du Parti démocrate qui est parti dans l'opposition. Même le président du Sénat, Renato Schifani, lui aussi du PDL, se serait déclaré surpris et pantois par cette initiative, selon ANSA. On rappelle que l'IDE a vécu sur le régime fasciste de 1922 à 1945. Donc, il va falloir garder un œil là-dessus.
Mais c'est quand même touché, ça. Mettons, en Allemagne, tu sais, la valorisation du Troisième Reich, c'est illégal, puis tu sais, les symboles nazis, puis toute l'affaire, c'est que ça vient comme infantiliser un peu les nouvelles générations. T'sais, ils ne se font pas forcément expliquer, puis ils ne s'intéressent pas forcément à qu'est-ce que ça a fait. T'sais, les jeunes Allemands aujourd'hui qui se disent nazis, encore, il y en a, puis eux autres, trois quarts d'entre eux, ils ont sûrement été attirés par le truc parce que c'était interdit, puis qu'il n'y a personne qui leur a expliqué pourquoi. C'est juste, gamin, ils vont dire bah, tu fais pas ça, pourquoi? Parce que c'est illégal. Il n'y a pas. Ça tombe dans l'espèce d'infantilisation. Fait qu'il n'y a comme pas d'espèce de position gagnante dans l'État avec... Tu sais, est-ce que tu l'interdis? Est-ce que tu l'interdis pas? Et comment tu l'intègres à l'éducation? C'est vraiment fucky, ça. C'est pas le fun.
Enfin, c'est toujours un peu bâtard, l'interdiction pure et simple. Moi, je sais pas. La question de l'expression, c'est une chose. C'est la question de l'organisation qui me dérange.
Oui, c'est clair. Ça
permet de s'organiser, de nuire, d'être violent, de mener des actions, ça, non. Mais de se parler.
Mais là, actuellement, en Italie, c'est exactement ça. Ils s'organisent, ils agissent, ils détruisent des camps romains.
Ils s'organisent par la bande, en fait, en faisant d'autres choses.
Ils s'appellent autrement. Puis... Sauf qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. T'sais, c'est comme une grosse hypocrisie. C'est pareil aussi en Allemagne. Tu sais, le parti national allemand, le NPD là-bas, là, t'es comme, ben voyons, t'sais, c'est des fascistes, là, vraiment, mais
oui.
Ils ont un autre nom. Fait que, t'sais, l'interdiction, c'est vraiment, c'est pas forcément une bonne affaire, je pense. C'est bon.
Pour la censure rouge contre la censure étatique. Allez.
C'est tout.
Ouais, on met de la musique, une vieille pièce d'IAM, mais... qui me fait penser au Maghreb.
Mon histoire de France à moi commence par un génocide, ses pensées maussades. Romance, une revanche impossible. Black et black au mic en habit bleu. Nous on maquille ces putains de feuilles immaculées en nuit bleue.
Ils brandissent la Bible
et mettent Jésus à tort de l'intox.
Ils nous ciblent
comme du flitox. Moi je revendique ma différence dans ce pays merdique.
Doucement,
t'inquiète, on fait des sous sous manteau car tous mentent.
Comment leur faire croire?
C'est qu'il n'y a pas que des cancres là, moi je manque là. Bave des cancres là, mon âme striée par les vicissitudes. Glace un cœur froid d'habitude, noir de bitume.
La vie c'est le vice à l'étude.
Ouais, vu d'en haut, y'a pas de frontières, c'est géant dans le néant. Les néons flash, amenés en galère, en bas, c'est un fion béant.
Dans chaque bar,
le recueil de notre juste lutte, ainsi Dieu l'a voulu.
Édifiant.
Et nous, ainsi Dieu.
Dépendance, que se remplit de sa principe, Gisla.
Gisla.
Perdure persiste, Gisla et Misla.
Dépendance, que tous ces chiens crient à sentenza.
Le mal qui nous berce,
nous on y perche, c'est potenza.
Mike Liberta, Mike Liberta.
La vie est mal faite,
et pour beaucoup,
elle finit perda.
Que se remplit de sa principe, Gisla.
Gisla.
Perdure persiste, Gisla et Misla.
L'indifférence trie les conséquences qui défient ma fille. L'insouciance lit Mars by night. Mike branches, je débarque pas d'un boat sur orbite en note. Sur orbite, les écrits mes notes. Let's go. Independenza pour nos troupes au complet. Propageant le plastique dans les foyers mieux qu'un amas. Exempté, devoir d'aller. Où je devais être, je trouve mon chemin. Je tombe sur terre, une comète allée. Mes motifs sont bien meilleurs que mes méthodes.
Ton tube cathodique, allume-le.
Vladislav Apologique.
God, fantasmagorique. Ma prod mieux qu'une drogue euphorique.
Allez, tiens.
Sur nos sens, tord.
Vas-y.
Qu'on braque les faisceaux.
Sur nous.
Chacun détient son réseau.
Chez vous.
Gros dans le vice, les grosses vis d'eau. Le monde s'agresse, se graisse.
Régresse.
Dresse ton bilan, skill pond ici, c'est pour leur adresse. Nec.
Ces chiens crient viva sentenza.
Le mal qui nous berce,
nous on y perd.
J'ai potenza. Mike Liberta, Mike Liberta.
La vie est mal faite
et pour beaucoup
elle finit
perda.
Que se remplit de sales principes gisla.
Grisla.
Verdure persiste,
vise et mise là.
Independenza. Que tous ces chiens crient viva sentenza.
Le mal qui nous berce,
nous on y perd.
J'ai potenza.
Regarde ces lumières étranges orange. Tu crois que c'est le pays qui change. Franchis le tunnel de l'Estac.
Écoute, même plus en France.
Pense qu'ici plus qu'ailleurs. La différence est une valeur. L'indépendance dans toute son ampleur.
Rien à voir avec la chaleur.
Mais ça bouge dans tes jambes proscrits. Tant que leur chance ose, à force de rien avoir.
Tu fais plein de choses.
Avec des bouts de craie. Ciel toujours sûr, mais pas assez dans la tête.
Ça devient de plus en plus dur.
Y'a un képi pour une casquette. Les cœurs battent sans cœur. Les styles saignent à flot. Trop de jeunes s'ouvrent les veines parce que trop de mots. Alors on pose tes mots sur une démo.
On crie bien haut.
La sale race n'est pas prête pour le tombeau. Les bras tombent au combat. Vois les balcons plein de drapeaux. On est dans le beau drap.
Rien s'enfile la rage.
Même quand les cages serrent comme des corsets. Lassé, le corps sonne le jour annoncé. Et là,
ça va se corser.
Trop pressurisé. La scission guette sur si on l'a, I am heavy dans le maquis au nom de l'indépendance.
Mike Liberta, Mike Liberta.
La vie est mal faite
et pour beaucoup.
Independenza. Que se remplit de sales principes gisla.
Grisla.
Verdure persiste,
vise et mise là.
Independenza. Que tous ces chiens crient vive à sentenza.
Le mal qui nous berce,
nous on y perd.
J'ai potenza.
Mike Liberta, Mike Liberta.
La vie est mal faite
et pour beaucoup.
Independenza.
Toujours à votre fait sur les ondes de Sécurité 88.3 à Québec. Écoutez, le budget du Québec a été adopté le 6 avril. C'est aujourd'hui, ça, à l'Assemblée nationale, à la majorité. 62 pour, 53 contre, pas d'abstention.
Les pauvres vont pas voir de show. Les beaux sont bien trop nono.
Alors, le budget contient, entre autres, une hausse radicale des frais de scolarité. Nous, on est convaincus que le débat sur la question ne concerne pas juste les étudiants. Après tout, ces jeunes-là ont des parents. Puis, ben, la question de l'éducation, c'est aussi une question sociale qui concerne tout le monde. Alors, on a préparé un petit dossier en trois temps. Premièrement, c'est qui les étudiants? Deuxièmement, est-ce que le Québec fait vraiment tout ce qu'il faut pour favoriser l'accessibilité aux études? Et troisièmement, la question du financement de l'éducation. Qui devrait payer et comment?
Les pauvres n'ont pas d'eau chaude. Check les pompiers qui rôdent. Les pauvres savent pas quoi faire pour sortir de la misère. Ils voudraient bien qu'un jour enfin ça soit leur. Les pauvres ont du vieux linge sale.
Hey, d'abord, qui sont les étudiants? Avoir allé le débat sur la hausse des frais de scolarité, on pourrait presque réécrire la chanson « Les pauvres » de Plume la Traverse qu'on entendait un peu, là, avec les préjugés qui ont cours sur les étudiants. Hein, les étudiants, ils ont des chars, des iPod Touch, puis des Blackberry, puis quand on veut les augmenter, ben ils vont manifester. Première nouvelle, les étudiants forment pas une classe à part homogène. Il n'y a pas de portrait robot de l'étudiant moyen. Leur seul point en commun, c'est d'être majoritairement jeunes. À 78,8%, ils ont moins de 24 ans.
Ben, pas pire.
C'est un point commun. Si on se fie à une étude récente de la FERC, la Fédération étudiante universitaire du Québec, on peut distinguer plusieurs catégories très différentes d'étudiants, selon qu'ils soient à temps plein, à temps partiel, selon qu'ils soient sur un retour à l'école ou pas, selon leur sexe, selon leur milieu d'origine et tout. Puis tous des déterminants qui vont, en fait, changer statistiquement de quoi ça a l'air. Dans les faits, en fait, si on regarde ça objectivement, il y a juste une minorité d'étudiants universitaires, le tiers à peu près, qui sont gros durs, qui vivent encore chez leurs parents, qui peuvent se permettre le luxe de se consacrer à temps plein à leurs études et qui peut-être effectivement ont un char pour venir à l'école.
Avec une vignette 1 à l'Université Laval.
C'est ça. L'immense majorité des étudiants, en fait, plus de 80% des étudiants universitaires en 2009, travaillent en plus d'étudier. Alors, même si la moitié d'entre eux font ça plus que 15 heures par semaine, ils travaillent pour des peanuts. Dans les services. On parle d'un revenu d'emploi médian de 9 000 beaux dollars par année. C'est énorme. Tu te payes un gros char, un hypothèque, un Blackberry avec ça, c'est évident. La moitié des étudiants, en fait, vit une très grande précarité financière et puis doit se contenter, en cumulant tout, là, aide parentale, aide financière aux études, prêt, bourse, revenu de travail, de 12 200 $ par année.
C'est gros dur,
certain. Évidemment, ça se répercute sur leurs conditions de logement. 60% ont des besoins impérieux de logement selon la norme gouvernementale de 30%. Et s'ils n'étaient pas étudiants, ils pourraient appliquer sur des HLM.
Oui. Et ça, c'est débile. Étudiant, il y a plein d'aides que tu n'as pas parce que tu as l'aide financière aux études.
Mais l'aide financière aux études, hein, pourquoi est-ce qu'ils travaillent tant que ça, les étudiants? Parce que ça a l'air qu'à partir du moment où tu travailles plus que 15 heures par semaine, ça commence à nuire à tes études. Puis là, ben là, on vient de le voir, là, ils sont... c'est la moitié qui travaille plus que 15 heures par semaine. C'est ça que j'ai dit?
Il me semble que la moyenne est à 17 heures semaine. La moyenne, là, ça veut dire que ça compte tous les gamins qui ont plein de cash puis qui habitent chez leurs parents, qui travaillent pas.
Donc, pourquoi ils travaillent pas? Parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Parce que l'aide financière aux études, les prêts et bourses, en fait, n'est pas adaptée pantoute. Sais-tu combien que les prêts et bourses, ils pensent qu'un étudiant, ça a besoin pour vivre... Mon Dieu Seigneur. Ouais. Comment ça a besoin pour subvenir à ses besoins de base par mois?
30 pièces.
740 $. Mais il calcule que pour manger 7 pièces par jour, c'est assez.
C'est suffisant. C'est vrai que le couscous, c'est pas cher.
En fait, c'est des allocations effectivement qui sont insuffisantes. C'est les moins élevées au Canada, puis ils sont pas vraiment indexés. Tu vois, entre 1990 et 2008, il y a une indexation de 26,7%, alors que le coût de la vie a augmenté de 46,39%. Donc, puis dans la réalité, en fait, les dépenses, selon l'université, parce que c'est des études par université, c'est pas des études générales là, au Québec, ça varie entre 877 par mois et 1120. Faut savoir que la mesure du panier de consommation en 2007, là, c'était 1106. Donc, le strict minimum pour garder quelqu'un en santé au Canada, c'était 1106 $ par mois, et le gouvernement considère qu'un étudiant, c'est assez 740.
Ben oui, mais c'est pas vraiment un être humain, tu sais.
C'est un futur contribuable.
C'est ça. Quand il va contribuer, on en parlera.
Ouais, c'est ça. Évidemment, quand on est jeune, papa et maman doivent pas être bien loin, hein.
Ben, ça dépend du monde. Puis des fois, papa et maman, ils n'ont pas l'argent.
Ben, écoute, ça a l'air que c'est encore vrai pour la majorité que papa et maman sont pas loin. Sauf qu'il y a quand même 40% des étudiants au Québec qui, des étudiants universitaires, qui ont aucune contribution parentale.
Oui, puis la FERC, c'était on poursuit les parents.
Non, ça, c'est le gouvernement qui dit qu'il faut poursuivre les parents.
Oui, mais la FERC l'avait fait.
Oui. Ben, en fait, il disait faut poursuivre les parents pour que, à partir du moment où tu es poursuivi, le gouvernement, il considère que tu n'as plus besoin de contribution parentale, fait qu'il te donne le.
Fantastique.
C'est fantastique. Parce que dans les faits, en fait, même le gouvernement reconnaît que les parents sont pas capables de contribuer anyway. Mais bon.
Sauf que ça leur prend le papier légal.
La poursuite. Écoute, les parents, là, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est pas parce qu'ils sont pas fins. Bon, ils doivent en avoir qui sont en rupture de banc avec leur étudiant qui est en train, avec leur fils, qui est en train de faire un bac ou une maîtrise en philosophie, comme un certain grand mania de la presse.
Les coeurants,
on les coupe les vives. Mais dans les faits, c'est un peu normal qu'ils contribuent pas. Imagine-toi donc, hein, 62% des familles québécoises ont des revenus disponibles de moins de 60 000 $ par année. Fait que, bon, on s'entend que avec ce type de revenus-là, on n'est pas nécessairement capable d'allonger un 15 000 $.
Pas toujours, non.
Pour faire vivre le jeune qui est à Montréal.
Surtout si t'en as plus qu'un.
Ouais, c'est ça. Et qui fait son bac. Donc, d'ailleurs, ça se reflète, hein, les parents, ils sont pas méchants, là, dans la majorité. Là, 80%, ils veulent que leurs enfants aient l'université. Hein. On veut tous que nos enfants aient le meilleur dans la vie. Puis comme dans notre société, on dit que le meilleur, c'est l'université, c'est pas nécessairement le cas. Hein. Ça
dépend de tout. C'est en train de dire qu'il y a 20% des parents qui sont pas rentrés dans le moule encore.
Oui, c'est ça. Mais écoute, il y en a juste 18% qui réussissent à épargner pour permettre de faire ça, finalement.
Ouais.
C'est quand même pas énorme, hein?
Je pense pas.
En tout cas, il serait peut-être utile de préciser, d'ailleurs, en passant, qu'il y a quand même 45% des jeunes sur les bancs d'école qui sont des étudiants de première génération.
Ouais.
Donc ça veut dire des étudiants dont ni papa ni maman n'étaient à l'université. C'est le premier de leur famille à aller à l'université. Puis ça nous amène peut-être un peu à la question là, des inégalités sociales. Hein, les étudiants ne sont pas tous pareils, mais on sait, au Québec, on est hot quand même.
On s'aime beaucoup au Québec.
Oui, on a les études les moins chères. On est le premier de classe en Amérique du Nord pour les études. Sauf que si on considère les facteurs socio-économiques, comme les prêts et bourses, comme le salaire disponible, comme les revenus des parents, on tombe au 30e rang sur 60 pour l'accessibilité. Donc, on est encore premier au Canada, mais on a 30 États américains qui nous dépassent en termes d'accessibilité.
Pas pire.
C'est pas pire. Puis ben c'est ça, écoute, tu vois, l'éducation aujourd'hui, ça a énormément progressé, l'éducation dans notre société, l'accès à l'éducation postsecondaire, entre autres à cause des cégeps, qui sont à peu près gratuits.
Ouais. Donc pas cher.
Ben, pas cher, on s'entend, là, c'est pas gratuit, mais à comparer de l'université...
C'est des pinottes.
C'est des pinottes. Avec les cégeps, on est à 70% à peu près de taux de fréquentation là, chez les jeunes de moins de 24 ans. Sauf que, bon, c'est moitié moins à l'université. On se demande pourquoi.
Ben!
Il y a peut-être des frais de scolarité en ligne de compte. Écoute...
Non, l'ADQ te dirait c'est parce que l'éducation est faite pour les femmes.
Ah, c'est pour ça. C'est peut-être pour ça.
Et voilà.
Mais... Je te dirais, il y a une chose qui est intéressante en accessibilité. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui vont à l'école. Sauf que la joke, c'est de voir les jeunes qui vont à l'école, ils viennent d'où? Puis là, on se rend compte qu'il y a peut-être un problème.
T'es en train de se créer des castes?
Légèrement. J'ai les chiffres là, de deux façons. On peut regarder par rapport aux revenus de la famille. On peut regarder par quintile.
C'est à peu près pareil. Que tu me dis, c'est quoi des quintiles?
Par fraction. Si on divise là, les revenus en cinq, là,
okay.
Ceux d'en bas, ceux d'en haut. Bon.
Ah, comme au cégep, tu avais R1, R2 jusqu'à R5.
C'est ça.
Dans mon temps.
Hey, si on y va avec... c'est les risques qui ressortaient ça. Il y a un taux de participation qui est un petit peu moins élevé chez les pauvres.
Non.
Ouais. 19,5% des jeunes dont les parents ont un revenu disponible de moins de 25 000 $ par année vont à l'université. Quand on va voir les jeunes dont les parents ont un revenu de plus de 100 000 par année, on tombe à 45,6%.
Ça, c'est-tu le premier quintile, ça?
Ce serait le dernier, en fait. Okay. C'est le top of the top. Mais c'est pas le quintile, ça, c'est les revenus, parce que je l'ai sorti aussi un quintile. Un quintile, c'est un peu moins pire, parce qu'il y a comme moins de... En tout cas, c'est moins tassé. Il y a 19% des jeunes du quintile socio-économique inférieur qui vont à l'université. Sur la jeunesse au complet, c'est 28%. Fait que déjà, par rapport à la jeunesse au complet, ils sont un peu désavantagés. Puis si on prend les riches, là, en haut, ben là, on tombe à 40%. Fait que, tu sais, c'est pas si accessible que ça. Puis si on pense que les frais de scolarité, ça n'a pas d'impact, pas en tout,
voyons.
On pourrait peut-être aller voir aux États-Unis.
Ah.
Où le deux tiers des Américains du quintile le plus riche vont à l'université versus 14% du quintile le plus pauvre. Donc, il y a une légère différence. Hein. En fait, on le voit, là, même le gouvernement, il dit, là, les gens, ils vont... C'est clair, 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 clair qu'une ségrégation sociale dans les programmes d'études. Et d'ailleurs, les frais de scolarité, par exemple, rendent attrayantes les formations techniques qui sont quasiment gratuites dans les cégeps. Et certains qui ont la capacité et même la volonté de poursuivre à l'université en informatique ou en sciences de la santé, par exemple, vont plutôt aller faire une technique parce que ça va leur coûter comme pas mal moins cher.
Oui, pour avoir une job au final, parce qu'il y a bien des fois où tu vas être spécialisé à l'université puis que, ben, tu te rends à travailler chez McDo.
En fait, même le pire là-dedans, là, on va y revenir plus la semaine prochaine là, sur l'accessibilité aux études. Là. Sauf que, tu sais, au Québec, en 1966, on a créé les prébourses.
66?
Oui.
Ah, pas pire.
Pour permettre de lever les obstacles financiers à l'accessibilité aux études, de permettre aux gens d'étudier.
Puis, avoir l'équivalent d'une hypothèque sur ton dos en sortant de l'école.
Ouais, mais au moins ils sont capables d'y aller. Mais malgré ça, malgré les prêts et bourses, le taux de fréquentation aux études supérieures stagne pour les étudiants qui ont un statut socio-économique inférieur depuis 1986. Il y a le même nombre de personnes à peu près. Là. Ça n'a pas augmenté l'accessibilité. Il n'y a pas plus de jeunes des milieux populaires qui vont à l'université aujourd'hui qu'il y en avait en 1986. C'est à peu près le même nombre. Sauf que dans la classe moyenne et dans la classe moyenne supérieure, ça a augmenté de 7%. Donc, en fait, l'écart se creuse au Québec depuis plusieurs années.
Mais c'est hallucinant qu'on en soit encore à se demander est-ce que je vais aller faire tel programme à l'université ou je vais me nourrir puis vivre le restant de mes jours avec une, tu sais, pas endetté. Ouais. Je veux dire, on n'est pas supposé calculer dans quoi on va étudier versus la colonne de dépenses du restant de tes jours.
Ben non, c'est sûr, là, mais ça a pas de bon sens. Je vais revenir sur tout ça là, plus en détail dans les prochaines semaines, là, mais il y a quand même des choses là, que je pourrais dire tout de suite si je peux les retrouver.
Mais tu sais, ça c'est aussi là. À qui va l'argent?
Ouais, à qui t'sais, va l'argent, c'est clair.
Tes frais de scolarité sont payés direct. Eux, pas de trouble. Ça, l'université ramasse l'argent tout de suite. Mais tous les intérêts, toute ta vie que tu payes des intérêts tout là-dessus, là. Tu sais, tu finis l'école à 25 ans, t'en as à payer jusqu'à 42.
Ben, ça dépend. Si t'as des prêts bourses depuis le cégep. Là.
Ouais, mais si t'as des prêts, là, puis t'es allé quasiment à ton top. Là.
Ouais.
Tous les intérêts, c'est-à-dire toute la manne, là, le cash qui pourrait t'sais, éventuellement dire ah, mais les prêts et bourses, au final, ça refinance quand même. Mais non, ça s'en va aux banques.
Ça s'en va aux banques.
Tu sais, l'État, en fait, ah, tiens, mon ami, voilà les intérêts.
En fait, j'ai vu les chiffres sur l'ampleur des intérêts en question. La CIS s'est amusée, elle a pris le taux d'endettement moyen pour un bac. Puis le gouvernement fédéral, ils ont un site là, où est-ce que c'est le calcul de combien ça va te coûter finalement là, sur le site des bourses du millénaire, je sais pas trop. Oh. Donc, ils ont pris un plan de remboursement sur 10 ans et ils se sont rendus compte qu'ils remboursaient une fois et demi le prêt.
Ben oui!
Fait que et évidemment, c'est la banque qui se met un
ben oui,
7000 piastres dans les poches.
Pourquoi? Parce que c'est stupide. Là. D'un côté, le gouvernement y arrive, ben, le ministère de l'Éducation refile ta dette à la banque. Puis de l'autre, ben, la banque, elle, sa seule job, là, c'est ben moi, je gère la paperasse. Là. J'ai des numéros, des numéros derrière lesquels il y a des personnes. Puis eux autres, ben, ils payent. Puis moi, je ramasse le cash. Puis en plus, c'est 100% garanti, parce que si tu fais faillite, les prêts et bourses, il faut que tu les payes pareil.
Ouais. Bon, écoute, sur deux, trois petites choses avant de terminer, qui sont quand même importantes. Il est souligné par plusieurs personnes. Il y en a plein là, qui disent que ça ne va pas nuire à l'accessibilité d'hausser les frais de scolarité. Ce à quoi on répond en général que non, effectivement, dans des programmes contingentés, ça ne changera rien. Ce que ça va changer, c'est qui va y aller et non pas nécessairement s'il y a du monde qui va y aller. Sauf que il y a une chose qui est évidente. C'était la FERC qui le soulignait, mais c'est aussi souligné par l'IRIS et la C. C'est évident que c'est les plus défavorisés des jeunes qui sont ceux qui ont le plus de risques de surestimer le coût des études et de sous-estimer la rentabilité des études et donc d'avoir peur d'un endettement important.
Mais ils vivent tout le temps, depuis qu'ils sont au monde, ils vivent avec pas de lousse, tu sais. Ils veulent pas, en tout cas.
Non, mais je les comprends tout à fait. Puis donc ça joue directement sur l'accessibilité. Puis ce que les autres ils disaient, c'est ils disent que Concrètement, là, les frais de scolarité sont le seul levier dont dispose le gouvernement pour avoir un impact positif sur l'accessibilité aux études universitaires et de manière directe, contrairement à tous les autres déterminants de l'accessibilité aux études. Ils peuvent pas jouer sur le statut socio-économique des gens. Ils peuvent pas vraiment jouer sur leur capital culturel. Ils peuvent pas vraiment jouer sur leur origine de classe, sauf qu'ils peuvent s'arranger pour lever toutes les barrières économiques. Et ils ne le font pas.
Mais non, mais c'est pas dans l'intérêt d'un État, ça.
Non.
Non, mais sérieusement, regarde qu'est-ce que ça fait éduquer sa population. Va voir dans le Maghreb, qu'est-ce que ça fait?
Qu'est-ce que ça fait éduquer sa population? Ça fait comme en Tunisie, ça fait des révolutions.
Le monde, ils se rendent compte que c'est de la merde, puis ils veulent changer ça, tu sais.
Donc, on va revenir la semaine prochaine avec la question de l'accessibilité aux études. Est-ce que le Québec fait vraiment tout ce qu'il faut pour favoriser l'accessibilité aux études? Et finalement, la question qui tue le financement de l'éducation, c'est qui devrait payer et pourquoi? Tout ça à voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Est-ce qu'on s'en va en musique pour revenir avec une conclusion?
Non, moi je te dirais conclu. Qu'on finisse ça avec une belle pièce de Insiders, Lean on Me.
Hey Jenny, toi qui participes au Mardi de l'Anarchie, est-ce qu'on a quelque chose à plugger cette semaine?
Non.
On n'a rien à plugger cette semaine.
Pas de Mardi de l'Anarchie cette semaine.
T'as une minute, là, je regarde. Ah ben oui, on a quelque chose à plugger cette semaine.
Allez-y, allons-y, allons-y.
Hey, vendredi, le 8 avril, le REPAC, le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire, fête ses 30 ans.
30 ans?
30 ans. En fait, il fête toute l'année, là, mais vendredi, à partir de 7 heures, il y a un cabaret populaire à la salle multi du complexe Méduse. Donc, je pense que l'entrée est 10$ et ma foi, ça va être une super belle soirée. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de monde invité et tout.
Mais toi, mon jeune est branché, c'est où ça, la salle multi du complexe Méduse?
C'est dans la côte d'Abraham, là.
Ah ouais?
Dans l'escalier, là.
Les marches?
Les marches. Ouais, en bas des marches. C'est à côté de où la station. En fait, la station est dans Côte d'Abraham. Puis la salle multi, je pense que l'adresse précise est sur Saint-Vallier.
C'est derrière.
En bas des marches, derrière, dans le complexe Méduse. Donc, ça va être une belle soirée.
C'est la rue du Parvis, ça.
C'est, je sais pas.
En tout cas, tapez complexe Méduse.
Dans Google.
Ouais. Ou alors, vous pouvez aussi appeler au REPAC. Je vais vous donner un numéro de téléphone à l'instant. C'est le
c'est pas le 529-90-26. Ça, c'est le numéro que vous devriez appeler pour vous mettre membre de la station de radio.
Oui, non, c'est le 523-4158. Donc, appelez au REPAC, 523-4158. Eux autres, ils vont vous dire c'est où le complexe multi. La salle Méduse dans le complexe... La salle multi dans le complexe Méduse, bordel!
On est capable!
On est capable! Et puis, à ce spectacle-là, il va y avoir des choses super intéressantes, dont notamment Zick Nutbombs, mais aussi Stéphane Robitaille. Il y a même Bernard Grondin qui vient, il a fait un compte spécifiquement pour le REPAC, ça va être vraiment cool. Et sinon, ben coudonc, moi, j'ai rien de précis pour la semaine prochaine à part de ça. Donc, vendredi, la fête du REPAC à la salle multi.
Et voilà. Si vous nous écoutez en rediffusion dimanche, c'est
trop
passé.
C'était Voix de Fait en compagnie de Nicolas,
Johnny
et Farouk.
Bonne semaine sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Profitez-en pendant qu'elle est là et si vous voulez que ça dure, devenez membre.
Lean on me. Jimmy, are you right or wrong? Put together we are strong. A family girl, I'll be taken. Not alone, just a mama, never leave on me. You can find a lower that solidarity. But together we can fight and win, yes. Ooh, come on, Lee. Come on, Lee. Success comes too strong.
Bonjour, je suis Adrien Chavanne, président de l'Association haïtienne de Québec. Je soutiens ce CKIA depuis 1986 parce que je crois à une radio solidaire qui, de plus, s'intéresse à la situation d'Haïti depuis plus de 25 ans. Ce CKIA a besoin de nous plus que jamais. Devenez membre, faites un don par Internet à ckiafm.org ou par téléphone à 529-9026. Merci.
Radio communautaire, une fois de temps en temps, en espagnol. Je comprends rien.
C'est Kaya. Tendez l'oreille, on parle de vous.
De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando.